mardi 13h, vous écoutez CFM Radio et c'est Ondes Positives qui commence. Bienvenue à tous. Cette semaine, nous allons parler d'ondes énergétiques traversant notre corps pour son plus grand plaisir et sa plus belle santé. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Léo Benoît. Bonjour Léo.
Bonjour.
Léo, tu es professeur de Tai Chi Chuan. Les auditeurs de CFM connaissent peut-être ta voix, car tu participais il y a quelque temps à l'émission Les Rendez-vous de Rosendo.
Oui.
Tu viens aujourd'hui nous parler de ton parcours et de ta découverte, qui est aussi ton message positif. Notre corps est notre meilleur ami.
Oui, c'est ça.
Alors, ma première question, Léo. Vivrait-on sans avoir conscience que notre plus grand ami, notre conseiller le plus sage, est avec nous 24 heures sur 24, tous les jours de notre vie?
Je vais te dire oui. Hein. Je vais te dire oui. Enfin, oui, je trouve que oui. Je trouve qu'il y a une déconnexion, une dualité corps-esprit dont on parle d'ailleurs tout le temps. On dit oui, même quand on parle de développement personnel, on parle de voilà, il faut être bien dans son corps et dans son esprit, comme si c'était deux choses différentes, alors qu'en fait c'est un seul bout. Et ça, je me suis rendu compte après quelques années de pratique qu'à partir du moment, je me suis rendu compte le jour où j'ai pas dit mon corps, j'ai dit moi. Ah ouais, il y a un truc qui s'est réuni là, il y a un truc qui a fusionné là.
Très bien, alors tu vas nous parler de tout ça. Tu m'as dit avoir eu cette première prise de conscience vers l'âge de 20 ans, lorsque tu as commencé un parcours de développement personnel. Quelles sont les raisons qui t'ont amené, toi, à commencer à travailler sur toi vers 20 ans, ce qui est quand même assez jeune?
Depuis toujours, je me suis toujours senti en décalage. Bon, après, vers l'adolescence, on se sent souvent bizarre. Je me suis senti en décalage, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Juste une perception en fond de vie qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et voilà, j'étais dans une période de doute, mais comme beaucoup d'ados, hein. Puis.
Ado, pour nous donner des détails, tu étais un enfant ou un ado comment? Comment tu te qualifierais à cette époque-là?
Plutôt assez solitaire. J'avais très très peu d'amis. J'en avais quelques-uns, mais pas beaucoup, triés sur le volet. Et voilà, je lisais beaucoup, je réfléchissais beaucoup. Enfin,
beaucoup voilà, dans l'analyse.
Voilà, c'est ça.
Dans le mental, donc.
Dans le mental, c'est ça. Dans la réflexion, dans le très solitaire aussi. Et simplement par le biais de ma famille, bah voilà, j'ai quelqu'un un jour qui m'a proposé de commencer à faire du développement personnel, et je me suis dit. Juste avec cette perception du fait qu'il y a quelque chose qui allait pas dans ma vie, je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas, on va essayer.
D'accord. Et tu vivais à l'époque en région parisienne.
C'est ça.
Et à côté de chez toi, il y avait un centre dédié aux thérapies alternatives.
C'est ça. Alors, c'était pas vraiment à côté de chez moi. Ça compte parce qu'il fallait que je fasse l'effort d'y aller quand même.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il y avait une motivation.
D'accord.
Et donc, il y avait un centre de thérapie alternative d'une méthode qui s'appelait la méthode Kertan à Bastille. Et donc j'ai commencé par ça. Ça consistait en une rééducation du système nerveux. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, non seulement déjà par la méthode, mais aussi par l'environnement. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient fait du travail sur eux.
Oui.
C'était un état d'esprit particulier, bienveillant, qui essayait d'entraide, il y avait vraiment une ambiance. En plus de la
méthode,
en lui-même, voilà, qui m'a vraiment fait découvrir autre chose, quoi.
D'accord, rééducation du système nerveux par la vision, hein,
c'est ça, par la vision
oculaire.
Concrètement,
d'accord.
On est dans le noir, on a une machine en face de nous qui envoie des signaux lumineux qui passent par les yeux, qui donc vont directement au cerveau et qui rééduque le système nerveux central.
Voilà. Donc tu commences par ce biais-là,
voilà,
à travailler sur toi et à avoir des prises de conscience. Qu'est-ce que tu observes comme changement?
Les premiers changements que j'ai vus, c'était au point de vue timidité, en fait. J'étais quelqu'un d'assez enfermé, avec peu de confiance en moi. Et ça c'est assez vite transformé, c'est-à-dire que je suis passé de renfermé à pas extraverti mais normal. Voilà, donc ça faisait déjà une grosse différence, quoi.
Donc comme une sorte de libération.
Oui, voilà, c'est ça, il y a de ça, il y a enfin simplement ne plus dès quelqu'un t'adresses la parole, t'es plus tétanisé de l'angoisse, quoi. Juste, tu peux lui répondre normalement, quoi.
D'accord.
Je faisais pas de discours devant des foules, hein, mais voilà, je pouvais parler à quelqu'un normalement.
D'accord.
Donc, c'était vraiment, oui, une libération, ouais, ouais.
Est-ce que tu as eu l'impression, là, que ton corps travaillait, que c'était par le corps que tu avais obtenu ce changement?
Non, pas encore. Pas encore, non. Non, ça c'est venu après.
D'accord.
C'est venu après.
Alors tu vas nous l'expliquer bien évidemment, mais dans un premier temps, un petit intermède musical avec Stromae. Alors on danse.
Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit étude dit travail. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela zique ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Une chanson choisie par Léo Benoît, mon invité dans Ondes Positives cette semaine. Alors, à quoi il correspond ce choix de chanson, Léo ?
En fait, c'est pas tellement un choix de chanson, c'est plus un choix de chanteur. Stromae, je l'ai écouté, enfin, je l'écoute depuis bien avant qu'il soit aussi connu. Je l'écoute depuis qu'il a commencé, en fait. Et je me retrouve en fait dans son côté décalé, en fait, quelque chose qui faisait écho à mon côté décalé quand j'étais plus jeune, quoi.
Dont tu nous as parlé tout à l'heure.
C'est ça.
Tu nous expliquais aussi que la méthode Kertan t'avait fait beaucoup de bien. C'était le premier travail sur toi. Et puis, il t'a permis de te sentir donc moins décalé, hein, pour revenir sur la chanson. Et puis, évidemment, il t'a mis le pied à l'étrier pour connaître le monde du développement personnel et des thérapies alternatives. Et tu continues le travail avec cette fois-ci la méthode Greenberg. Et c'est peut-être vraiment là que tu vas prendre conscience du corps comme un outil d'évolution en fait. Hein?
Exactement.
Ouais.
En fait, simplement, bon, c'était une méthode qui travaillait sur le corps et sur les émotions, avec aussi la parole, enfin comme outil aussi, en plus du toucher. Mm-hmm. Et en fait, moi qui m'étais jamais plus, enfin avant ça, j'aimais vraiment pas le sport. C'était pas quelque chose qui était agréable pour moi d'en faire. Je m'étais jamais penché sur mon corps parce que j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et à partir de là, j'ai vraiment vécu des choses tellement folles à travers cette méthode de soins que ça m'a vraiment fait des chocs, quoi. J'ai pris vraiment des baffes, quoi, de me dire, ah ouais, c'est possible, quoi, c'est possible. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est un outil formidable et qui est en plus sous-utilisé et qui peut donner des résultats extraordinaires, quoi. Et à partir de là, je suis tombé accro sur le travail sur soi à travers le corps. Et j'ai
D'accord.
commencé Qigong à partir de là.
En quelques mots, cette méthode Greenberg, ce sont des massages. C'est ça, des massages du corps?
Et des massages du corps, en fait, je vais pas décrire ça parfaitement, mais c'est essayer de trouver les tensions émotionnelles qui sont coincées dans le corps,
mm-hmm.
et simplement les dénouer comme on défait un nœud, mm-hmm. pour refaire circuler l'émotion, en fait.
D'accord.
Et donc, ça peut faire sortir des choses émotionnelles, ça peut être des pleurs, ça peut être des tremblements, des bâillements, ça peut être plein de choses, quoi.
D'accord. C'est une libération par le corps de nœuds émotionnels.
C'est ça, exactement.
En fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que le corps a une mémoire.
Ah oui.
Le corps se rappelle de ce que l'on a vécu.
Oui.
Et donc, sans forcément s'en rappeler avec le mental, mmh. on peut évacuer ce vécu qui est un nœud émotionnel.
C'est ça.
Simplement par des massages. Enfin, des massages, des points d'acupression, des.
Voilà. Ça va pas être un massage bien-être, hein. Ça va être un massage thérapeutique. Donc, c'est quelque chose de particulier. C'est pas juste un massage comme on peut entendre californien ou quoi que ce soit. C'est vraiment un massage particulier avec des points particuliers.
Est-ce que c'est important de comprendre ce qui se libère par le corps?
Disons que c'est important dans la mesure où on ne fait pas que comprendre le problème. Je veux dire, pour moi, c'est le problème des gens qui ne cherchent qu'à comprendre leur problème. Comprendre le problème, c'est bien, ça aide. Mais ça aide pas forcément à le résoudre. J'ai une amie psychologue qui dit, moi, des cabinets, des gens qui ont compris leurs problèmes, j'en ai plein mon cabinet, mais ça veut pas dire qu'ils les ont résolus, leurs problèmes.
Et oui.
Ça peut aider, mais ça fait pas tout.
Mm-hmm. Donc, en fait, à choisir, il vaut mieux se libérer et transformer.
Ah oui.
Plutôt que comprendre.
Hein. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un facilitateur, la compréhension. Après, c'est pas ça qui résout le problème.
Ouais. Voilà. Et tu vas même plus loin parce que tu dis, si on veut analyser, intellectualiser, c'est aussi quelque part une fuite.
Ah, totalement. Ça, je m'en suis rendu compte par mon parcours.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, une fuite?
Mais simplement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour pouvoir faire circuler ce qui se passe au moment où il se passe, c'est-à-dire je reçois une émotion forte, il faut que je sois présent à l'émotion, présent à la sensation de l'émotion. Mais c'est quelque chose qu'on connaît tous, une boule dans la gorge, un nœud au ventre, ça peut être plein de choses. Simplement, si on essaie de le bloquer en pensant à autre chose, on fuit les sensations, on fuit le moment présent, et donc on reste juste avec ça, coincé dans un coin, et c'est là où le corps se dit, bon, là il faut que j'en fasse quelque chose de ce nœud émotionnel, cette charge émotionnelle, bah, je vais la mettre dans un coin. Et c'est là où ça commence à se cristalliser.
Mmh.
Et c'est là où, quand on accumule les cristallisations d'émotions, eh ben, ça commence à faire des problèmes, voilà,
oui.
énergétiques et physiologiques.
Et à faire mal physiquement.
Voilà.
En fait, donc, la fuite dont tu nous parles, c'est une fuite dans l'analyse, essayer d'analyser, essayer de comprendre. C'est quelque part aussi se couper de la sensation corporelle.
Ah, totalement.
Mm-hmm.
Totalement ça. C'est-à-dire juste se déconnecter de ce qui se passe au moment où ça se passe. Et penser à ce que je vais faire demain, penser à ce que je vais faire hier, enfin, ce que j'ai fait hier. Enfin, c'est penser à tout sauf ce qui se passe au moment présent,
ouais.
parce que ça peut être désagréable parfois.
D'accord. Alors, avec ce travail sur le corps, par la méthode Greenberg, bon, cette méthode, on en parle parce que c'est celle que tu as expérimentée à ce moment-là, hein. Mais bien sûr qu'il y a d'autres méthodes en somatothérapie autres qui permettent le même travail. Avec ce travail-là, donc, quel résultat tu as pu obtenir sur toi, sur ton mieux-être général? Comment tu dirais?
Enfin, Déjà, ça a encore amélioré mes relations sociales avec les gens. Mais aussi, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi, en fait. Comme si je me suis rendu compte que avoir une perception de son corps, sentir son corps, en fait, concrètement, ça ancrait dans la matière et ça permettait d'avoir confiance en soi, en fait, comme un stabilisateur, comme un pilier qui vous soutient quand il vous arrive des choses, quoi. Avant, quand il m'arrivait un truc émotionnel fort, j'étais complètement perturbé. Et là, j'étais perturbé, mais j'étais plus complètement déstabilisé, j'étais plus perdu, quoi.
D'accord. Sentir son corps, c'est une façon d'avoir conscience. On se dit, ah, je suis là, je peux tenir la barque.
Simplement, sans sentir ses limites physiques, ça permet de respecter ses limites physiques, en fait.
Ouais. Voilà. Alors, j'entends aussi des personnes dans le monde du développement personnel qui disent, oui, mais tout est possible, il n'y a pas de limite. Ce qui est en partie juste. N'empêche que, on a quand même aussi des limites de la matière, limites imposées par le corps.
C'est-à-dire que tout est possible, d'accord, mais si je saute du toit, je ne m'envole pas, je m'écrase par terre. À un endroit, faut faire attention quand on dit ça, faut faire attention à qui on le dit. On peut pas le dire à n'importe qui, quelqu'un qui est totalement déconnecté de son corps et qui cherche à s'en déconnecter le plus possible. Si on lui dit ça, ça peut être dangereux. Le corps, il est là pour nous faire du bien. Qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait, le corps ne peut que vouloir qu'on aille bien. Après, on peut le rendre fou, le corps. On peut le rendre fou en se droguant, en y faisant pas attention, en faisant n'importe quoi avec. Le corps, il peut blitzer
Oui, auquel cas on perturbe les signaux.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais un corps relativement sain, qu'on n'a pas trop abîmé, qui qu'on soit, même si on est une horrible personne, il ne peut que nous vouloir du bien.
D'accord. Et c'est en ça que tu dis que c'est notre meilleur ami.
C'est ça.
Il est plein d'amour pour
nous.
Il
est toujours là pour nous, il est plein d'amour pour nous, il fait tout pour nous.
Alors toi qui étais beaucoup dans la réflexion et la théorie, à ce moment-là de ta vie, tu lâches le mental définitivement et tu t'ancres dans ton corps. Tu m'as dit, ce n'était plus une souffrance d'être.
Oui, il y a de ça, c'est-à-dire que je suis passé par une phase où j'ai complètement, comme tu dis, rejeté le mental. Après, j'en suis revenu parce que je me suis dit que c'est un équilibre à trouver entre les deux. Mais c'était simplement me rendre compte à quel point, en fait, ça avait rien de tangible de réfléchir tout le temps, en fait. À un endroit, on réfléchit, mais si c'est pas ancré dans la matière, c'est juste du vent, la réflexion. Voilà. La réflexion, c'est un processus. Après, il faut l'ancrer dans la matière. Et la matière, c'est la sphère corporelle, physique.
Très bien. Alors, bien sûr, dans le même temps, la vie continue. Tu fais tes études de graphisme. Tu es donc graphiste. Et sur un écran toute la journée.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe quand on est devant un écran toute la journée?
Simplement, un écran, c'est un moyen de pas être présent à ce qui se passe. J'étais assis toute la journée devant mon écran et je me suis dit, à un moment, je suis sur un chemin d'évolution. Je peux pas continuer comme ça, ça me va pas. Je peux pas être assis toute la journée hors de moi, dans l'écran, quoi. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que s'il y a tellement de gens qui sont coincés dans leur écran, que ce soit les portables, les écrans d'ordinateur, les écrans de télé, c'est pour être en dehors de soi, quoi. C'est une fuite de ce qui se passe. C'est vraiment une fuite.
Tu penses qu'en fait, si aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes sont tellement accros aux écrans, c'est parce qu'ils sont mal à l'intérieur?
Je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils s'enfuient de la réalité, soit parce que la réalité est désagréable, enfin ils doivent la sentir désagréable en tout cas, mais ça peut être pas forcément un vrai mal-être physique, mais ça peut être aussi un mal-être simplement je me dis le monde court à sa perte avec tout ce qu'on entend partout, j'ai pas envie de voir ça, voilà, j'oublie tout ça, tout ce qui me touche, tout ce qui peut me blesser, alors voilà, je regarde la télé, je regarde une émission, je regarde un jeu, enfin voilà quoi.
On se distrait,
voilà, pour oublier,
et on regarde pas
dedans
bon. Et puis peut-être la relation aussi. Parce qu'il y a le dedans et puis il y a aussi la relation qu'on a aux autres.
Oui, c'est possible. Si la relation qu'on a avec les autres est quelque chose de douloureux, si on est très timide, si on a beaucoup souffert à cause des autres, on peut essayer d'éviter ça. On s'enfuyant dans l'écran, quoi.
D'accord. Donc tu constates que tu es devant un écran toute la journée. Hein.
C'est ça, assis et devant un écran toute la journée.
Et en fait, c'est pas très congruent pour toi. Hein.
Non, pas du tout. Donc après
quand on aime être dans son corps, on peut pas gérer toute une journée devant un écran.
Non, c'est pas possible.
C'est à ce moment-là que de revenir aux arts martiaux, notamment. Alors, je vais revenir parce que tu avais eu une période dans ton enfance où tu faisais un peu de judo.
C'est ça.
Mais évidemment, quand tu reviens aux arts martiaux, tu n'es plus dans le même état d'esprit.
Non.
dans quel état d'esprit es-tu ?
Eh ben, disons que quand j'étais petit, voilà, on fait des arts martiaux parce que nos parents nous inscrivent pour faire des arts martiaux. On se pose pas plus de questions là. Quand j'y suis revenu, en étant plus adulte, plus mûr, simplement, je savais pourquoi je le faisais. Et c'était pour chercher, pas juste à chercher à être fort, aussi chercher à être fort, mais en ayant une définition de la force qui est différente de juste pouvoir casser la tête à tout le monde dès qu'on nous énerve. Mm-hmm. C'était une force intérieure, en fait. Chercher ce que c'est la véritable force, quoi. Pas juste la force musculaire, mais la force intérieure.
Mmh. Donc tu as démarré par le Qigong.
C'est ça.
Et à l'époque, un maître de Qigong, qui faisait également par ailleurs du karaté, vous expliquait que le souple surpasse le dur.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Simplement, ça veut dire que ce qui est trop dur est cassant. Mais c'est aussi bien valable dans la nature, par exemple, enfin dans la nature, dans la vie extérieure, c'est-à-dire... On voit un mur de maison, par exemple. Un mur de maison, s'il y a des micro mouvements du sol, eh ben, le mur va se fissurer, simplement. Alors, on voit le sol, qui est quelque chose de plutôt meuble, bouger tout doucement, tout en souplesse, tout doucement, qui fissure quelque chose qui est censé être très dur. Et simplement, c'est une observation de la nature, quoi. C'est comme la fable du chêne et du bambou. Il y a le chêne, il y a le bambou, il y a une tornade qui passe. Bah, le chêne, il est dur et déraciné. Alors, le bambou, il plie. Mm-hmm. Et sauf qu'il casse pas. À la fin, il reprend sa forme.
D'accord.
Et c'est pareil dans le corps, en fait. Quand on est trop dur avec le corps en permanence.
Crispé, par exemple.
Tendu, et même dans la dureté, frapper des trucs durs, des arts martiaux trop durs, mais pas que des arts martiaux. Ça peut être la danse qui peut être très dure, ça peut être beaucoup de choses. Mm-hmm. On se crée vraiment des problèmes, on peut se créer des micro-fissures dans les os, on peut se créer beaucoup de micro-déchirures dans les tendons qui vont causer des vrais problèmes de santé après.
Le dur fait mal au corps, hein, en gros.
C'est
il
ça.
Fragilise à long terme le corps.
Le dur à l'excès fait mal au corps, en fait. Parfois, il faut être dur quand on reçoit un choc, par exemple. On se contracte pour pas recevoir l'énergie destructrice. Mm-hmm. Mais après, il faut savoir se détendre pour laisser circuler le reste.
D'accord.
Pas que dur tout le temps, pas d'excès.
Donc avec ton travail en Qigong, tu prends conscience de la fluidité, de la souplesse.
C'est ça.
Et à ce moment-là aussi de l'énergie.
Ben voilà, c'est ça.
De l'énergie vitale.
Ouais.
C'est peut-être justement le moment d'expliquer ce que c'est que le Qigong et le Qi. Comment tu le définirais,
alors,
toi ?
Le Qigong, c'est... c'est on pourrait en parler pendant longtemps. Mais si on veut, le Qigong, c'est... comment dire ? D'abord une gymnastique de santé, c'est-à-dire entretenir ses articulations, ses muscles, ses os, tout ça. Mais c'est aussi une gymnastique énergétique. Pour moi, l'énergie, c'est pas quelque chose de magique. L'énergie, c'est ce qu'on appelle le qi en chinois, de qigong, de tai chi chuan. Mm-hmm. C'est l'énergie. C'est pas quelque chose de magique. On en a besoin pour bouger. C'est-à-dire, on va demander à n'importe quel médecin du sport pour bouger le bras, pour tendre le bras, il faut simplement de l'énergie. Et le qigong, c'est simplement apprendre à conscientiser cette énergie qui passe à l'intérieur de soi, et aussi qu'est-ce qui nous fait du bien justement au niveau énergétique, c'est-à-dire du bon air, la bonne nourriture. Ça c'est des choses qui nous nourrissent en énergie, parce que c'est simplement ça, l'énergie, en fait. Mm-hmm. On a un capital énergie et on se nourrit de choses pour être en bonne santé, en fait.
D'accord.
Simplement.
Oui, par exemple, si on mange un fruit cueilli de l'arbre, il est encore plein d'énergie vitale.
C'est ça.
Alors que s'il a traîné 3 semaines dans le frigo et qu'en
Exactement.
Plus il est bourré de pesticides,
Exactement.
Il est mort et du
c'est
coup
ça.
On n'en récupère aucune
c'est
énergie
ça.
Vitale.
C'est ça. Mmh. Mais c'est simplement, c'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Quand on est dans une ville très polluée, on prend un grand bol d'air et on tousse, on a mal à la gorge. Alors, d'ailleurs, les gens respirent pas à cause de ça, je pense, en partie à cause de ça. Alors que quand on va à la montagne, voilà, le bon air frais, quoi. Mais c'est des choses très pragmatiques, hein. Les Chinois sont très pragmatiques, donc c'est pas des choses très, très tarabiscotées, quoi. C'est simplement du bon sens. Et c'est ça qui nous nourrit en chi, en énergie.
D'accord. Donc, tu prends conscience de cette énergie vitale à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur dans ton environnement. Par la même occasion, tu vois que l'environnement parisien ne te correspond plus du tout.
C'est ça.
Donc, tu arrives au bon air de Montauban.
C'est ça.
Tu comprends que ça sert à rien d'avoir des gros muscles, mais que l'important, c'est l'énergie qui circule.
C'est ça.
Alors, pour parler de tout ça, on va se mettre dans l'ambiance avec une petite musique tibétaine. Alors, elle s'appelle Chen Rezi et c'est de Chen Shark Daxé. Je suis désolée pour l'accent. Une musique tibétaine choisie par Léo Benoît dans Ondes Positives. Alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette musique, Léo ?
Ben, cette musique, elle m'évoque justement tout ce côté développement personnel, tout ce côté travail sur soi, le fait d'arriver à se détendre, à se relâcher, à souffler, quoi.
Mm-hmm.
À souffler.
C'est l'apaisement.
C'est l'apaisement.
Le souffle, tu dis souffler, le souffle est important dans la pratique du Qigong?
Ah bah le souffle est important, mais même en dehors de la pratique du Qigong, faut apprendre à respirer. Il y a un nombre incalculable de gens qui sont bloqués dans la respiration. Et même des bons pratiquants d'arts martiaux, ou internes ou externes, qui ont le souffle bloqué, c'est quelque chose de, à travailler pour moi, à conscientiser, à apprendre à relâcher, quoi.
Ça veut dire qu'on peut vivre en apnée.
Ah oui. Ah oui, oui. Vraiment. Mm-hmm. Vraiment. Il y a des gens qui ont des amplitudes respiratoires minuscules, qui sont complètement bloqués, quoi. Ça fait vraiment du bien d'apprendre à respirer, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Et donc, ça s'apprend en Qigong à respirer, à travailler sur le diaphragme, à ouvrir la cage thoracique.
Oui, il y a beaucoup de travail du souffle en Qigong, mais pas forcément que en Qigong. On peut faire des exercices exclusifs à la respiration. C'est vrai que le Qigong, à un endroit, c'est tellement dense que rien. Enfin, je vois des gens qui ont déjà du mal à apprendre les mouvements, donc je préfère me concentrer soit sur les mouvements du Qigong, soit sur la respiration, quoi.
D'accord.
Rien que le fait d'apprendre à respirer, c'est un travail en soi, quoi.
Mmh. Alors toi, tu fais des exercices de Qigong tous les jours, et tu as constaté que depuis, tu n'es plus malade.
Alors oui. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'ai eu énormément de problèmes ORL, donc rhinopharyngite, laryngite, tout ça, otite en permanence, à chaque fois, enfin des problèmes ORL, quoi, la sœur ORL. Et j'étais malade tout le temps, angine sur angine, c'était terrible, quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire du Qigong, donc tous les jours, ça c'est important.
C'est une pratique quotidienne.
Qigong. J'en faisais pas plus de 10 minutes, un quart d'heure chaque jour, hein, y a pas besoin d'en faire pendant des heures. Hein, mais tous les jours. Et puis surtout, avec sincérité, en étant concentré sur ce qu'on fait, pas en pensant, tiens, faut que je fasse les courses, tiens, faut que je fasse ci, tiens, faut que je fasse ça.
Oui, juste parce que si on est en apnée, en train de se dire, oh là là, il faut que je finisse ça, après, ça fonctionne pas.
Ça sert à rien. Il faut être concentré et le faire régulièrement. Et je me suis rendu compte, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais pas été chez le médecin. Je me suis dit, ça fait 3 ans que j'ai pas été chez le médecin. J'avais plus d'otite, j'avais plus rien. J'avais des problèmes de genoux, j'avais plus de problèmes de genoux. J'étais en bonne santé, quoi. Je me suis dit, mais oui, ça correspond au moment où j'ai commencé à faire du Qigong tous les jours.
Donc tout ça en faisant circuler le chi, l'énergie vitale dans le corps.
Hein. C'est ça.
Donc ça veut dire que lorsqu'on a toutes ces petites maladies et ces problèmes articulaires, etc., c'est souvent des somatisations, des blocages que l'on a dans le corps qui peuvent être libérés simplement par le mouvement et la circulation de l'énergie et la respiration.
C'est ça. Ça fait partie ça assainit le terrain immunitaire de base de faire du Qigong tous les jours, mais ça va avec aussi bien manger, enfin avoir une hygiène de vie assez c'est pas monastique, hein. Il faut savoir faire des excès. Moi, souvent, je dis, des fois, je fais des excès pour me souvenir pourquoi faut pas en faire. Voilà. Donc, des fois, je vais dans un bar avec mes copains, je bois plus que de raison, et le lendemain, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, et je me dis, je me souviens pourquoi faut pas que j'en fasse tous les jours des excès.
Ouais.
Et là, c'est la même chose. C'est une hygiène de vie, et simplement, après, on est simplement en bonne santé, quoi.
Ouais.
Voilà.
Quand on prend soin de son corps, le corps nous le rend bien.
Exactement.
Et il est dans son équilibre.
C'est ça. C'est ça. Rien d'autre. Comme je le disais tout à l'heure, le corps ne peut pas faire autre chose que nous vouloir du bien. Même quand on se dit, pourquoi j'ai mal ci, pourquoi j'ai mal là, c'est pas qu'il essaie de nous embêter. Souvent, j'entends des gens dire, j'en ai marre de mon corps, j'en ai marre de mon genou, j'en ai marre de ci. Simplement, avoir mal quelque part, c'est des signaux que le corps vous envoie pour vous dire, regarde, il y a un problème là, tu ferais bien de t'y pencher parce que sinon ça va empirer. Et si les gens ne s'y penchent pas, souvent, ça empire. Alors que si on s'y penche, on peut régler le problème.
Il est sympa, il fait que nous avertir.
Oui, c'est ça. Et il est quand même hyper résistant, le corps. Hein. Des fois, il y en a, ils empilent les maladies, les problèmes, et le corps tient, il fait de son mieux pour qu'on tienne, quoi. C'est extraordinaire, je trouve ça extraordinaire, la capacité de résistance du corps par rapport à la capacité de pression qu'il peut avoir tout en continuant à fonctionner, quoi. Je trouve ça extraordinaire, moi.
Des cocottes minutes sur pattes.
C'est ça.
Alors, ce qui est d'extraordinaire, c'est que lorsque l'on est bien dans son corps, ça permet aussi de se sentir bien dans sa tête, parce que tout est interconnecté, évidemment.
C'est lié. Exactement. C'est simplement, on peut pas être bien dans sa tête et mal dans son corps. Je veux dire, quand on a mal quelque part, ça finit toujours par influencer l'état d'esprit, le moral, quoi. Si on a mal en permanence, moralement, ça va mal, quoi.
Oui, ça se voit. Même au niveau du visage, on est tout crispé quand on a mal quelque part.
Et inversement, quand on va mal intellectuellement, psychiquement, moralement, ça se retransmet sur le corps. Est-ce que vous avez déjà vu un fou ou un malade mental qui rayonne physiquement, qui est magnifique physiquement? Ben non, c'est lié, les deux choses sont liées.
C'est ce que tu disais en préambule de l'émission, hein. En fait, c'est un tout.
C'est ça.
Et on peut pas vouloir travailler sur son corps sans penser au mental, ou c'est travailler ça. Sur le mental ou sur notre partie psychique sans travailler sur le corps.
C'est ça.
Alors, on a compris cet apprentissage en Qigong. Comment tu arrives finalement au Tai Chi Chuan?
Eh ben, parallèlement à mon cheminement mon cheminement intérieur et le fait que je suis parti de Paris, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que c'était être un homme dans notre société moderne. Qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est être viril, avoir les poils qui dépassent de la chemise et avoir une grosse Ferrari? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Je me suis dit, mais évidemment que c'est plus subtil que ça. Mais est-ce que je connais quelqu'un qui représente la masculinité moderne dans notre société? Et j'ai commencé à chercher à ce que c'est être un homme. Et être un homme, c'est être fort, mais pas être fort, être une armure de muscle pour casser la tête à tout le monde. Qu'est-ce que c'est être profondément fort, en fait? Qu'est-ce que c'est être fort à l'intérieur? Et donc, je me suis dit, je vais reprendre les arts martiaux. Donc, j'ai commencé le Tai Chi Chuan, qui est un art martial. J'insiste bien sur le fait que le Tai Chi Chuan est un art martial. C'est pas juste une gymnastique. Le Tai Chi Chuan est un art martial, donc, à but défensif et offensif. Et donc, j'ai voulu réexplorer cette sphère-là, justement, pour rentrer en contact avec l'autre et voir que justement le travail interne peut avoir une influence sur la sphère externe, en fait, sphère physique.
Tu es en train de nous dire que pour répondre à une question philosophique, qu'est-ce qu'être un homme dans notre société moderne, tu es allé chercher une réponse par le travail du corps.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Simplement. Simplement, c'est mon outil. Voilà. Il y en a qui utilisent les émotions, d'autres qui utilisent l'intellect. Moi, j'utilise le corps. C'est mon outil de développement personnel.
Donc, tu t'es pas penché sur une encyclopédie de philosophie?
Ah, non. Non. Ça me donne des boutons.
D'accord.
Ça me donne des boutons. La philosophie pour la philosophie, je trouve que c'est assez creux. Après, bien sûr, il y a une philosophie plus profonde, mais c'est comme tout. Le corps, l'intellect, il peut y avoir des choses creuses si c'est pas fait avec sincérité, avec profondeur. C'est juste un... Tous les chemins mènent à Rome. Ben moi, mon chemin, c'est le chemin du corps.
Très bien. Voilà. Donc, tu commences ton apprentissage en Tai Chi. Donc, cet art énergétique et martial. Hein? Alors, qu'est-ce que tu apprends justement sur la force masculine, alors sur l'énergie masculine?
Et ben, simplement, je comprends de me dire, voilà, à quoi ça sert d'être une montagne de muscles qui casse la tête à tout le monde? À rien. Concrètement, quelqu'un me saute dessus, il me donne un coup de poing, je lui casse le bras, bon, et après, voilà, il a mal, je me suis sûrement fait mal en bloquant son coup de poing, on a tous les deux mal. Et puis surtout, ça me fait pas plaisir de voir quelqu'un en train de souffrir le martyr à cause de moi. Simplement, c'est quelque chose qui va pas là-dedans. Et là, j'ai commencé à avoir une recherche justement d'arts martiaux doux, entre guillemets, comme le Tai Chi Chuan. Il y a l'aïkido aussi, choses comme ça, il y en a d'autres. Apprendre à repousser son adversaire, mais sans lui vouloir du mal, en fait. Juste, quelqu'un vous agresse, d'accord. Bah, je reçois souplement son attaque et je le repousse sans dureté, souplement. Simplement, je le laisse tomber tout seul, presque, en fait.
Oui.
Il va se relever, il va être énervé. Mais là, et c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quand on attaque quelqu'un et qu'en face, il n'y a pas d'agressivité en réponse. C'est vraiment quelque chose qui coupe notre propre envie de faire du mal, quoi. Quand la colère nourrit la colère. Si t'es en colère et qu'en face de toi il y a que de la douceur, c'est vraiment déstabilisant parce que tu peux pas être en colère face à de la douceur. C'est physiquement impossible, en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert.
Alors, tu m'as expliqué que ton travail en Tai Chi Chuan consiste à avoir cet état d'esprit suivant. Tu ne cherches pas à casser le corps de l'adversaire, tu cherches à casser sa volonté de te nuire.
C'est ça. Je cherche à pas le briser physiquement, parce que ça n'a pas de sens de briser quelqu'un physiquement. C'est juste douloureux pour tout le monde, en fait, physiquement, émotionnellement. C'est douloureux, quoi. Briser son agressivité, ça c'est pas douloureux. Physiquement, il est pas blessé, et moralement, peut-être qu'il se rendra compte, ça va peut-être lui faire une prise de conscience, de se dire, mais pourquoi je suis tellement agressif?
Oui.
C'est un art martial de prise de conscience, en fait, de l'autre. Mm-hmm. C'est ça.
Alors, généralement, les 8 maîtres en Tai Chi Chuan, et donc les autres, l'autre art que tu as, l'aïkido, voilà, que tu as cité, ne sont pas des montagnes de muscles, justement. Ce sont des petits bonhommes.
C'est ça, des petits bonhommes. Il y en a certains qui sont assez connus pour être costauds, mais, enfin, de toute façon, les Asiatiques, c'est pas pour faire un cliché, mais ils sont plutôt plus petits que nous, occidentaux. Mm-hmm. Et souvent, mais ça, je l'ai expérimenté avec des maîtres. C'est-à-dire que moi, je fais 1m80, je suis 80 kilos, et puis je suis quand même en forme, quoi. Donc, plutôt musclé. Et j'ai été faire un stage avec un maître asiatique, un tout petit, de faire 1m60, 70 ans, gringalé, quoi. Et il m'a fait tomber avec une facilité et surtout une douceur qui m'ont fait vraiment un choc, quoi. Un vrai choc, quoi. Alors que voilà, je le tenais pas pour de faux, le maître. Je serrais toutes mes forces avec tous mes muscles, avec tous mes 80 kilos. Mm-hmm. Et lui, il m'a fait tomber, il m'a fait tomber tout doucement, quoi. Mm-hmm. Et ça m'a vraiment fait un choc, quoi. Une vraie baffe, quoi. De me dire, ouais, donc c'est possible. C'est vraiment possible, quoi. C'est pas une question juste de pure musculature.
D'accord. On dit souvent dans les arts martiaux que l'adversaire utilise notre force contre nous-mêmes.
Ça dépend lesquels. Mais oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors après, ça demande énormément de pratique, hein.
Ouais.
Mais de toute façon, pour être bon, n'importe quel art martiaux, quel qu'il soit, demande énormément de pratique. Mais c'est savoir. En fait, c'est plus. Enfin, je parle de mon expérience personnelle, c'est-à-dire savoir utiliser la force de l'autre pour pouvoir le lire, en fait, et se servir de cette lecture de l'adversaire pour pouvoir le repousser, en fait. Hier, je donnais un cours et je vous montrais une application martiale et je disais à mon élève, je disais, mais regarde, chaque fois que tu tends, ça, il montrait l'application, donc il était en train de me faire une clé de bras et je disais, mais regarde, chaque fois que tu essaies de te tendre musculairement, ben, j'arrive à reprendre le contrôle et c'est moi qui retournais la situation. Mm-hmm. Alors, si tu restes doux dans ton mouvement, moi, je peux rien faire.
Donc, en fait, le but, c'est d'être toujours souple et fluide comme de l'eau pour que l'adversaire ne puisse pas trouver une prise dans
nos
muscles.
Exactement. Exactement. Quand on est souple, c'est comme essayer d'attraper de l'eau. Il y a rien à attraper. Alors que quand on est tendu, c'est comme un mur d'escalade. Il y a plein de prises partout.
Donc dans cet apprentissage du Tai Chi Chuan, tu t'aperçois de ta faculté à percevoir ton corps, comme si tu avais une sensibilité particulière, un don particulier pour la perception corporelle.
Ouais, je me suis rendu compte que j'avais une facilité de perception corporelle, en fait. Je pense qu'on a tous des dons, on a tous des facilités pour certaines choses. Il y en a qui sont bons, je sais pas, qui sont très bons pour apprendre les langues. Il y en a d'autres qui sont très bons pour dans plein de domaines différents. Ben moi, ma facilité, mon don, c'était la perception corporelle, quoi. Mm-hmm.
Donc tu te rends à l'évidence que ta voix n'est pas dans le graphisme, par exemple, mais dans la pratique du Tai Chi Chuan, et tu décides de te former pour être toi-même professeur de Tai Chi Chuan.
C'est ça.
D'accord. Donc, tu fais une formation à Albi, hein, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Je fais une formation de Tai Chi Chuan dans un institut qui s'appelle Ulongshen. Et je fais une formation à un art martial, enfin, un Tai Chi bien particulier. C'est le Tai Chi de Wudang, qui est un Tai Chi, en fait, très lié à la spiritualité. Et donc, c'est pas juste de la gymnastique, ni juste un travail énergétique, c'est vraiment quelque chose de vraiment plus profond, en fait. Et de la même manière que tout à l'heure, je disais, il y a plein de niveaux pour faire travailler du travail sur soi. Moi, j'ai utilisé le travail du corps, et je me suis rendu compte qu'à travers le Tai Chi, on pouvait atteindre des niveaux de conscience vraiment surprenants. Le premier niveau, c'est le corps. Le deuxième niveau, c'est l'énergie. Le troisième niveau, c'est les émotions. Et puis, il y a encore des niveaux au-dessus. On peut atteindre des niveaux de conscience, d'ouverture extraordinaires, de la même manière qu'on peut méditer, c'est fou, quoi. C'est fou.
D'élévation spirituelle,
ouais,
d'élévation
ça,
des consciences. D'accord. Donc, le premier niveau par lequel on passe tous, c'est le côté physique,
côté gymnastique.
Voilà, de la gym, assouplir les articulations, respirer, se faire du bien au corps.
C'est ça.
Ça, c'est le premier
niveau
du tai chi.
Mais c'est aussi un niveau important. C'est le niveau qui permet de ne pas tomber malade, d'être en bonne santé, d'avoir une musculature nécessaire. Pas être une montagne de muscles, mais simplement une musculature nécessaire à pouvoir faire des activités physiques de manière agréable, quoi, pas se sentir faible. Quoi.
Tu en parlais tout à l'heure, ça permet aussi de sentir son corps et puis se sentir confiant parce qu'on on sent une structure, du soutien de la part de son corps.
C'est le corps, c'est un soutien, c'est quelque chose qui ne nous veut que du bien et le fait de le sentir, ça permet déjà d'en prendre soin. Tiens, j'ai mal au genou, tiens, j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je, enfin, d'en prendre conscience tout de suite et pouvoir faire attention à pas que ça dégénère, mais aussi ça permet d'avoir confiance en soi, quoi, simplement de se sentir, ça rend fort, quoi, rien que de se sentir.
D'accord. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture du tai chi.
C'est ça.
Le deuxième niveau, tu nous dis, c'est l'impact énergétique.
Voilà, c'est
ça. L'énergie dans le corps.
C'est ça. C'est un niveau plus subtil. Il faut quelques années quand même pour commencer à percevoir l'énergie, ce qu'on appelle le chi en chinois. C'est comme un fluide qui coule à l'intérieur. Mais c'est vraiment là, je parle pas de, c'est difficile à décrire en mots parce que c'est pas la sphère intellectuelle, c'est la sphère sensorielle là. C'est vraiment un niveau perceptif, donc c'est comme un fluide qui bouge dedans. C'est simplement le fait de pouvoir d'avoir jamais froid parce que ça circule bien, de pouvoir faire des choses bizarres avec son corps. C'est un niveau au-dessus en fait, c'est-à-dire que c'est comme si on devenait élastique dedans en fait. C'est une énergie qui nous remplit, mais qui nous permet d'être plein sans utiliser ses muscles en fait, d'avoir une structure intérieure en fait.
D'être dense, de se sentir
d'être dense, plein en fait, vraiment
vivant, revigoré.
C'est ça.
D'accord. Et c'est ce qui fait que les personnes qui sont dans cet état rayonnent.
Voilà.
On le sent pas sur soi, en tout cas on le voit pour les autres, ceux qui sont dans cet état intérieur, ils ont quelque chose de lumineux.
Bah oui, c'est ça. C'est le travail de l'énergie, c'est souvent, on voit on entend des histoires de grands maîtres qui arrivent à pousser trois hommes d'un seul doigt. À un endroit, c'est pas magique, c'est juste un niveau de maîtrise et de perception, de son énergie qui est bien au-delà de la norme, entre guillemets, quoi. C'est, pour moi, il n'y a rien de magique, c'est juste, la sensation, la perception, la présence, en fait. La présence.
Le troisième niveau, tu nous disais, c'est le niveau des émotions.
Voilà, et c'est là où on entre dans le domaine de la thérapie pour moi. C'est que je disais tout à l'heure que les émotions restent coincées à des endroits du corps, se cristallisent.
Oui.
Simplement, faire circuler l'énergie, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui circule. La sensation corporelle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui coulait à l'intérieur. Et en fait, le fait que ça circule dedans, ça érode ces cristallisations d'émotions et ça les fait partir en fait, simplement ça les fait disparaître. Et bien sûr, des fois, par exemple moi, une fois en faisant l'arbre, j'ai senti une colère énorme à l'intérieur et ça m'a énervé, donc j'ai laissé sortir cette colère corporellement et après c'est passé et c'est plus jamais revenu, comme si la charge émotionnelle était sortie et avait existé et ensuite elle s'était dissoute simplement, quoi.
Donc ça veut dire que le troisième niveau de lecture du Tai Chi Chuan, c'est que c'est un soin thérapeutique.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Qui permet de libérer les scories, les émotions cristallisées, laisser partir dans la rivière.
Voilà, les laisser sortir, les laisser exister à un moment où on les avait pas laissé exister, on les avait mis dans un coin en disant je sais pas quoi faire de toi, je te mets là. Simplement la laisser sortir. Exister, parce qu'une émotion, c'est encore une fois un message corporel pour dire que là, c'est pas que vous avez mal au genou, mais que c'est une situation qui vous va pas, qui vous convient pas.
Donc, il est pas rare pour les apprentis en Tai Chi Chuan, lorsqu'ils sont dans leur mouvement, de se mettre, par exemple, à pleurer, alors qu'ils savent pas pourquoi.
Alors là, il faut déjà un niveau quand même un peu avancé, parce qu'il faut déjà arriver à se relâcher, en fait. Faut vraiment que l'énergie passe, c'est pas juste le premier niveau suffit pas, faut que le niveau de l'énergie circule pour que ça nettoie. Et puis aussi, faut s'autoriser le fait que ça puisse sortir.
D'accord.
Ça, c'est pas toujours facile.
Oui. Donc il faut du temps, comme on n'a pas appris depuis petit à le faire à l'école et avec les parents.
C'est ça, mais c'est surtout de la sincérité dans la pratique.
D'accord. Et puis le quatrième niveau, on en parlait, c'est le niveau spirituel.
C'est ça. Et là, au même niveau que de la méditation, que de la prière pour certains, si c'est leurs outils, il y a vraiment une ouverture qui se fait. Mais j'en parle pas trop parce que c'est pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de pudique, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on essaie à tout prix de faut pas qu'essayer de convaincre les autres de sa spiritualité. C'est la spiritualité, c'est propre à chacun. C'est quelque chose à garder pour toi. C'est une petite perle.
Une expérience intime.
C'est ça.
Non partageable.
C'est ça.
Alors, on parle de spiritualité. Eh bien, on va écouter une voix d'ange. c'est celle de la chanteuse du groupe London Grammar.
This line, do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Doesn't matter. I'm chasing old ideas. It doesn't matter.
Grammar, Wasting My Young Years, choisi par Léo Benoît, mon invité cette semaine dans Onde Positive. Pourquoi tu as choisi cette chanson, Léo ?
J'ai choisi cette chanson, pas tellement à cause du titre, mais plus à cause de la voix de la chanteuse qui, pour moi, est hautement spirituelle. Elle a une voix reliée à quelque chose au-dessus, quoi.
Mm-hmm.
Et en même temps, c'est une des rares chanteuses que je vois qui chante non pas en talons aiguilles de je ne sais combien de centimètres, mais avec des chaussures plates. Pour moi, ça symbolise le fait qu'elle est bien ancrée, et en même temps, elle est bien ancrée, et en même temps, elle est bien connectée en haut. Elle est bien connectée en haut et en bas, et ça, c'est rare, et c'est beau.
C'est un message pour toutes les jeunes filles qui veulent faire leur belle en talons aiguilles.
Je sais, en tout cas, je veux juste te dire comme ça...
Je me sens un peu visée.
...que les talons aiguilles, c'est joli. Alors là, je ne dis pas le contraire. C'est très joli, les talons aiguilles, mais ça n'aide pas à s'ancrer.
D'accord. Alors moi, je rebondis aussi sur le titre de la chanson, « Gaspiller ses jeunes années ». Alors on pourrait peut-être inviter les jeunes devant leur écran, qui peuvent parfois avoir le sentiment de gaspiller leurs jeunes années, à venir pratiquer le Qigong et le Tai Chi. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah simplement, je voudrais dire que c'est important de pas se juger durement, de pas se sentir jugé. Personne n'a le droit de vous juger durement du fait que vous êtes coincé devant votre écran.
Mm-hmm.
Simplement... Ayez conscience de pourquoi vous êtes coincé devant votre écran. Quand vous êtes coincé devant votre écran, simplement ayez conscience de ce que vous cherchez à fuir ou ce que vous cherchez à éviter. C'est simplement prendre conscience, c'est la première étape. Et c'est l'étape qui fait parcourir 50% du chemin.
Ouais, ouais. Hein, il suffit d'un premier pas. Il y a quelque chose comme ça, une phrase de Lao Tzu. Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner, Léo, tes coordonnées ?
Alors, mes coordonnées téléphoniques ou...
Oui, pour les personnes qui seraient intéressées par tes cours de tai chi,
alors,
ça se passe où, quand, etc.
Vous pouvez me joindre sur mon portable au 06 80 30 55 74. Sinon, je donne des cours le mardi après-midi à 18h15 à la salle de danse de Grisolles et le mercredi à 19h15 au centre Pilates de Marève-du-Puits à Montauban. J'ai un site où il y a toutes les infos dessus qui est réveilcorporel.com. Mm-hmm. Vous pouvez y aller. Éventuellement, on pourra peut-être essayer de mettre l'adresse du site en lien.
Bien sûr.
Sous le podcast. Et voilà.
Parfait. Tu répondras à toutes les questions.
Voilà, avec plaisir.
Concernant ces apprentissages en Qigong et en Tai Chi.
Voilà, avec grand plaisir. N'hésitez pas.
Parfait. Merci Léo pour ton témoignage et tes messages positifs.
Je vous en prie. Merci à toi de m'avoir invité.
Chers auditeurs, vous savez maintenant que votre corps n'est qu'amour pour vous. Alors traitez-le bien et écoutez-le. Il a plein de choses à vous dire. Si vous voulez réécouter cette émission entre deux dialogues avec votre corps, ce sera dimanche à 20h ou sur cfmradio.fr en podcast, rubrique émission, onde positive, bien sûr. Pour me contacter, je vous le dis toutes les semaines, osez donner vos messages positifs. Je suis joignable par mail dag@s'accomplir.com. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de votre corps et à mardi prochain.
CFM, la douceur, l'harmonie, la quiétude, l'ivresse de la paix. Oui, bon, enfin, c'est tout de même du rock. CFM, le rock, la pop, le folk.